Vous allez écouter l'émission Parlons Climat, réalisée en partenariat avec la COV, communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin.
Bonjour. Les questions environnementales et climatiques sont de par leur nature à la fois locales, nationales et internationales. Avec le sommet de la Terre à Rio en 1992, les dirigeants de la planète ont initié une politique de partenariat mondial de lutte contre le réchauffement de la planète. Pour atteindre les objectifs internationaux, les États ont déployé des politiques spécifiques. En France, les lois Grenelle 1 et 2, ainsi que la loi de transition énergétique pour la croissance verte, fixent les objectifs de réduction de consommation énergétique et des émissions à l'échelle nationale. Moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990, une réduction de la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à 2012, moins 30% de consommation d'énergie fossile en 2030 par rapport à 2012, porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale d'énergie en 2030 et à 40% de la production d'électricité. Moins 50% de déchets mis en décharge à l'horizon 2025. Et à une plus grande diversification de la production d'électricité, avec pour but de baisser à 50% la part du nucléaire à l'horizon 2025. L'élaboration d'un plan climat air énergie territorial, PCAET, est une réponse locale qui devra permettre aux territoires de participer à l'atteinte de ces objectifs. Et pour aborder tous ces enjeux et la mise en place du plan climat air énergie à l'échelle de la communauté de communes Ventoux-Comtat-Venaissin, nous avons le plaisir de recevoir en studio Ghislain Gricourt, vice-président de la COV délégué au développement durable, et Geneviève Boissin, responsable du service environnement et énergie en charge du PCAET. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Merci de participer à cette émission. Et donc on va commencer, puisque j'ai placé un petit peu le débat, on va commencer par la première question, si vous le permettez, Ghislain Gricourt. Première question pour vous, qu'est-ce qu'un PCAET? Que comprend-il et quels en sont les grands axes?
Alors d'abord, je vais développer PCAET parce que les sigles, c'est bien gentil, mais il y en a tellement que c'est un petit peu une jungle. Alors c'est le plan climat air énergie territorial. Donc c'est un plan, comme son nom l'indique, qui est valable sur 8 à 10 ans et qui va comprendre un certain nombre d'objectifs en termes de réduction effectivement de consommation d'énergie, en termes environnementaux, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, etc. etc.
Alors vous êtes vice-président de la COV, vous êtes également maire d'une commune. Est-ce que le rôle des élus et les choix politiques, comment sont-elles associées à un tel plan, les maires des communes? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Comment vous avez été associé à ce plan, et vos collègues justement, les élus?
Bien sûr. La COV représente en fait 25 communes sur le territoire comtadin et chaque décision se prend bien sûr en conseil de communauté. Toutefois, dans l'élaboration d'un tel plan climat air énergie territorial, les élus ont été associés lors d'un séminaire qui s'est déroulé il y a un an à Carpentras et où tous ont pu effectivement donner les éléments qui ont procédé à la construction de ce PCAET.
Alors Geneviève Boissin, les axes, est-ce que vous pouvez nous les énumérer, les grands axes?
Alors les grands enjeux du territoire concernent plusieurs thématiques. Les deux grands enjeux sont la rénovation de l'habitat et la mobilité plus durable. Donc ces deux thématiques correspondent à 2/3 des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation énergétique du territoire, ce qui est énorme. Donc c'est vraiment les deux grands enjeux du territoire et du plan climat. Et en plus, dans le cadre du plan climat, on a vraiment des notions d'adaptation du territoire au changement climatique avec l'évolution de notre cadre de vie vis-à-vis de l'évolution du climat, notamment de nombreuses canicules qui commencent à se développer, mais aussi l'évolution et l'adaptation de l'agriculture locale, le cadre de vie des habitants, mais aussi les procédures d'aménagement qu'il va falloir faire évoluer. Et le plan climat aborde également les thématiques d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, puisque on sait que c'est une des causes et des conséquences du réchauffement climatique.
Alors justement, par rapport à ce que je vous coupe deux secondes, par rapport à tout cela, puisqu'on aura largement le temps d'y revenir, il y a un diagnostic qui a dû être posé sur la COV. Ça s'est passé comment, ce diagnostic? Comment est-ce que la COV a pratiqué pour faire un diagnostic total de l'ensemble de...
Alors en fait, les élus se sont engagés dans un plan climat air énergie territorial en septembre 2018 dans un conseil communautaire réunissant l'ensemble des élus du territoire. On est dans la poursuite d'une action vis-à-vis du climat puisqu'on s'était déjà engagé en 2012 dans un premier plan climat qui était un plan climat à l'époque qui n'était pas obligatoire. Donc en septembre 2018, on s'est réengagé par rapport aux nouvelles lois de transition énergétique qui ont nommé les EPCI, c'est-à-dire les établissements publics de coopération intercommunale, comme coordinateurs de la transition énergétique sur notre territoire. Et effectivement, les premiers mois, les 6 premiers mois ont été dédiés à l'élaboration d'un diagnostic sur les émissions de gaz à effet de serre, la consommation énergétique, les volets également de séquestration carbone qui sont un peu nouveaux et qui ont permis de poser vraiment les grands chiffres sur notre territoire vis-à-vis des enjeux climat, air et énergie.
Et là, après, donc, les élus dont vous faites partie sont intervenus suite au diagnostic ?
Tout à fait. Les élus se sont appropriés effectivement l'ensemble des décisions qui ont été prises. Et je veux dire, lorsque l'on fait des commissions avant chaque réunion du conseil de communauté, les élus sont associés, du moins les représentants des communes. C'est aussi un moyen pour la COV de se poser un petit peu en territoire exemplaire là-dessus. Ensuite, oui. Si vous le permettez, il y a le volet environnemental, mais il y a aussi un volet économique qui trouve grâce oui. aux yeux de nos élus. En ce sens, on a un territoire qui est énormément déficitaire en matière de production d'énergie. Sur le territoire de la COV en 2015, ça a coûté exactement 114 millions d'euros.
Oui, ce n'est pas rien.
D'énergie consommée et non produite sur place. Et ce n'est pas rien.
Alors Geneviève Boissin, donc vous l'avez un petit peu abordé, la rénovation énergétique de l'habitat fait partie donc d'un des objectifs de ce PCAET. Quels sont les dispositifs justement qui vont être mis en place dans ce cadre-là et y a-t-il des partenaires associés à ce dispositif ?
Donc en fait, par rapport à l'habitat, effectivement, qui consomme une grosse partie de l'énergie et qui émet également beaucoup de gaz à effet de serre, l'objectif c'est vraiment de massifier la rénovation puisqu'on a beaucoup sur notre territoire, beaucoup de logements qui datent d'avant des réglementations thermiques de 1975 et du coup sont, en termes de performance énergétique, pas très performants. Donc l'objectif que se sont fixés les élus, c'est de rénover 10 000 logements d'ici 10 ans.
Alors je vous coupe deux secondes, excusez-moi Geneviève, ça s'adresse aux bâtiments publics ou c'est pour le privé, ce que vous êtes en train d'expliquer ?
Alors on est plutôt sur les bâtiments privés, d'accord. Effectivement, mais évidemment, au titre, comme le rappelait M. Gricourt, au titre de notre rôle de collectivité publique, on s'applique également un certain nombre d'obligations en termes de rénovation de nos bâtiments publics puisqu'ils consomment également des énergies. Donc l'objectif de massifier la rénovation sur notre territoire, c'est de diminuer la facture énergétique des ménages et d'éviter de surconsommer dans des logements. Et pour ça, en termes de dispositifs, aujourd'hui, depuis 10 ans, existe l'espace Info-Énergie qui est animé par l'Agence locale de transition énergétique qui a pour rôle d'informer et de sensibiliser les citoyens et les petites entreprises à des problématiques de maîtrise de l'énergie, d'isolation, de changement de chaudière, etc. d'une manière gratuite et neutre. Donc c'est un dispositif qui existe, qui fonctionne bien, qui permet de recevoir un certain nombre de clientèles et de les accompagner dans la rénovation. Ensuite, on a des OPA, des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, qui sont des dispositifs de soutien qui existent et qui sont organisés par la COV depuis plusieurs années, qui ont pour objectif d'accompagner d'une manière technique et financière la rénovation de l'habitat privé sur notre collectivité. Et les personnes qui peuvent en bénéficier ont un accompagnement gratuit et personnalisé et des aides financières et des avantages fiscaux qui leur permet de rénover leur logement, ce qu'ils n'auraient peut-être pas pu faire. Donc c'est essentiellement des propriétaires occupants ou des propriétaires oui. bailleurs. L'objectif vraiment ciblé dans ces OPA, c'est des travaux de réhabilitation énergétique et également une réhabilitation globale de leur logement. Et ça peut être également un volet de lutte contre l'insalubrité dans certains logements.
Alors ce dispositif en dehors du PCAET, il existe déjà depuis quelques temps, parce que je pense que ça fonctionne pas trop mal sur notre secteur, la rénovation.
Oui, tout à fait. Déjà la COV s'est positionnée depuis de nombreuses années oui. et les OPA, l'espace Info-Énergie existe depuis plus de 10 ans, depuis 2007 et les OPA existent depuis plusieurs années également dans le centre de Carpentras et sur l'ensemble des communes.
À la réalisation de cette émission, il y a Florian qui est avec nous.
Oui, bonjour.
Bonjour Florian. Alors Florian, ben, toi tu es allé à la rencontre donc, de deux de ces organismes, deux partenaires. Est-ce oui. que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Après je pense qu'on écoutera les interviews.
Oui, je suis allé à la rencontre de Philippe Marda qui est le directeur de Solia 84, donc on va l'entendre dans quelques instants.
Et on a aussi eu Juliette Loquier, donc là c'est pour l'ALTE, l'Agence locale de la transition énergétique, qu'on écoutera, donc elle est chargée de communication.
Alors Geneviève Boissin-Solière, est-ce que en deux mots, avant qu'on écoute un petit peu l'interview, cet organisme-là, c'est aussi ancien que ALTE, les accords avec eux, c'est différent?
Alors c'est un accord qu'on a dans le cadre des OPA, hein. Oui. C'est le prestataire qui nous accompagne et qui anime le territoire pour mettre en place les OPA. C'est vraiment une commande de la COV, ils travaillent vraiment pour nous et c'est vraiment notre animateur territorial.
On va écouter l'interview de Solia.
Allez, on écoute.
Nous trouvons maintenant à Solia 84, premier acteur associatif en matière de l'amélioration d'habitat. Et donc au sein de cette émission pour le PCAET, je me trouve maintenant avec Philippe Marda qui est directeur de Solia 84. Bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, on va peut-être pouvoir présenter la structure Solia 84. Qu'est-ce que c'est ?
Alors Solia 84, nous on est une association. On est présidé par le conseil départemental de Vaucluse et on est en fait opérateur pour l'habitat privé, c'est-à-dire que nous aidons les propriétaires privés dans leurs projets d'amélioration de l'habitat, notamment par le montage de dossiers de subventions pour les travaux qu'ils veulent réaliser et en même temps dans les travaux, dans leurs projets qu'ils veulent accomplir au niveau de leur résidence, soit leur résidence principale, soit pour les propriétaires bailleurs, pour leur logement locatif.
L'association Solia, pourquoi elle a été créée ?
Donc Solia, c'est un acteur en fait qui a été créé pour accompagner les propriétaires, pour améliorer l'habitat des propriétaires privés et surtout pour améliorer l'habitat des plus modestes, pour les aider à avoir un meilleur cadre de vie et avoir des logements qui sont notamment moins énergivores et pour lutter aussi contre l'habitat dégradé et insalubre qu'on trouve dans les villes, quoi. Et dans les villages, surtout de notre département.
Donc ça, c'est un peu les missions justement de Solia. Quelles sont-elles justement, si on pouvait en compléter ?
Ouais. Donc les missions, nous, on a différentes missions au niveau du département. On intervient dans le... On a des missions pour tout ce qui concerne en fait l'habitat dégradé, c'est-à-dire qu'on intervient comme opérateur pour l'Agence régionale de santé et pour la CAF, pour tout ce qui est lutte contre l'habitat indécent, contre les marchands de sommeil en fait. Donc ça c'est notre mission un petit peu de lutte contre l'habitat dégradé. Ensuite on a une mission sur tout ce qui est travaux, rénovation énergétique. Donc là, on intervient dans le cadre de montage de subventions pour aider les propriétaires occupants à justement réaliser les travaux d'économie d'énergie afin de baisser leur facture énergétique. Et on intervient aussi pour tout ce qui est maintien à domicile des personnes âgées, justement pour adapter les logements, soit l'adaptation pour le maintien à domicile. Hein. Donc ça peut être soit pour des personnes âgées, soit pour des personnes handicapées. Donc on intervient, on les accompagne dans leurs travaux et on les accompagne dans le montage des dossiers de demande de subvention auxquels ils peuvent prétendre, puisque nous on est opérateur pour tous les financeurs. Donc le but en fait c'est que la personne qui vient nous voir n'a qu'un seul interlocuteur et que nous lui montons en fait, nous aidons à lui monter la globalité des dossiers de demande de subvention. La personne va avoir en fait qu'un seul interlocuteur face à elle.
On va peut-être parler d'une prestation aussi que Solia met en place, c'est l'OPA. Alors ça s'écrit O-P-A-H. Qu'est-ce que c'est ?
Alors une OPA, c'est une opération programmée d'amélioration de l'habitat. C'est un dispositif qui est porté par une collectivité. Le but en fait, c'est de pouvoir permettre aux administrés, aux habitants de ce périmètre, de pouvoir avoir des financements pour améliorer leurs conditions de vie au niveau de leur habitation. Donc il y a plusieurs collectivités au niveau du département qui ont lancé des OPA. À l'heure actuelle, il y a la COV qui a lancé son dispositif opérationnel sur les 24 communes du secteur. Donc c'est l'OPA multisite de la COV, Carpentras étant à part, puisqu'il y a un nouveau dispositif qui sera lancé, mais qui pour le moment est à l'arrêt, qui sera lancé un petit peu plus tard. Donc ça, c'est le dispositif qui est porté par la COV. Ensuite, il y a d'autres collectivités qui ont lancé aussi des dispositifs. Il y a la CC Pro, c'est la commune qui se trouve, les 5 communes qui sont autour d'Orange, qui ont lancé aussi une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Et la ville de Bolène aussi qui a lancé sa propre opération. Donc à l'heure actuelle, ouais, il y a quelques opérations qui sont lancées. Et il y a le conseil départemental qui va lancer aussi un pic départemental sur l'ensemble des communes du département de moins de 10 000 habitants. Voilà.
Et donc si je souhaite profiter peut-être de cette prestation, comment je fais? Est-ce que d'abord je vais vers la COV ou plutôt vers vous? Vers qui je me tourne pour être mis en relation?
Donc après, non, la COV en fait, elle va financer le dispositif, mais ce n'est pas la COV qui va monter les dossiers, puisque justement elle a cherché un opérateur, justement nous, au niveau de Solia, qui est chargé d'assurer le suivi animation. Donc si des propriétaires veulent réaliser des travaux et pensent et veulent savoir justement si elles peuvent bénéficier d'aide pour ces travaux-là, dans ce cas-là, ces personnes peuvent se tourner vers nos services et nous, on va justement étudier leurs projets et voir à quoi elles peuvent prétendre, si elles peuvent prétendre à quelque chose par rapport à leur projet.
Et donc, est-ce que la prestation est gratuite ou pas?
Dans le cadre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, la prestation est gratuite pour le pétitionnaire, puisqu'en fait, nos frais d'ingénierie sont pris en charge par le maître d'ouvrage, à savoir la collectivité. Donc, sur le territoire de la COV, c'est la COV qui prend en charge nos frais d'ingénierie. Donc, pour le pétitionnaire, pour le propriétaire, nos frais d'intervention sont gratuits. Il n'y a pas de frais d'intervention.
Quelles sont aussi les thématiques d'intervention dans le cadre des propriétaires occupants? Et après, on verra sur le cadre des propriétaires bailleurs.
Pour les propriétaires occupants, en fait, il y a trois thématiques d'intervention. La première thématique, c'est la lutte contre l'habitat dégradé. Donc, c'est les maisons qui peuvent être avec des travaux très lourds. Donc, ça, c'est la première intervention. Ensuite, la deuxième thématique, c'est tous les travaux qui concernent les économies d'énergie. Donc là, on intervient pour réaliser en fait des scénarios, des évaluations énergétiques, et ensuite proposer aux propriétaires des scénarios de travaux pour en fait leur proposer les prestations les plus performantes en termes d'économie d'énergie. Ça, c'est la deuxième thématique. Et en fait, la troisième thématique, c'est tout ce qui concerne le maintien à domicile pour les personnes âgées ou handicapées, où là, on va subventionner des travaux. Pour les personnes âgées, c'est souvent le remplacement des baignoires par des douches italiennes, ou alors pour les personnes handicapées, c'est des créations d'unités de vie en rez-de-chaussée. Donc ça, c'est les trois thématiques de financement pour les propriétaires occupants. Ensuite, pour les propriétaires... Déjà, pour les propriétaires occupants, ces aides sont toujours sous condition de ressources. Donc on va vérifier avec eux déjà leur éligibilité. Donc ça, ce sont les financements pour les propriétaires occupants et les thématiques. Ensuite, pour les propriétaires bailleurs, les objectifs sont un petit peu différents, puisque le but, en fait, c'est de produire du logement locatif dans le parc privé. Donc, on va travailler avec les bailleurs par rapport aux travaux qu'ils veulent réaliser. On intervient souvent sur des logements qui peuvent être vacants, ou alors, on se trouve là dans des situations où des logements non occupés avec des gros travaux. Donc là, on peut financer toute la globalité de ces travaux. Il y a aussi une autre thématique d'intervention, c'est également les économies d'énergie, où là, on intervient des fois sur des logements locatifs occupés, mais on intervient uniquement pour des remplacements de chaudières, des isolations de toitures, de remplacements de fenêtres. Donc ça, ce sont les deux thématiques éligibles pour les bailleurs. Et en contrepartie, le bailleur peut bénéficier de subventions pour ces travaux-là. En contrepartie, le loyer du logement locatif va être plafonné en fonction de la surface habitable du logement qui va être mis sur le marché locatif.
Vous tenez aussi des permanences régulièrement. Donc là, on va parler essentiellement de la COV. Donc là, apparemment, sur 8 communes. Donc est-ce que vous pouvez nous parler et nous donner peut-être les dates où on peut vous retrouver régulièrement sur les 8 communes pour avoir plus d'informations?
Donc on a mis en place des permanences sur le territoire de la COV. Le but étant justement de mailler au maximum le territoire pour que les propriétaires n'aient pas beaucoup de trajets à faire pour venir nous voir. Donc on a 8 permanences mensuelles sur le secteur, sur ces 24 communes. On a une permanence à Aubignan, à Beaume, à Bédouin, à Malocène, à Mazan, à Sarian, à Caron et à Vaqueras. Ensuite, ces permanences-là, les jours de permanence sont sur le site aussi de la COV, où elles peuvent retrouver nos jours de permanence. Et on est en fait une demi-journée de permanence par mois sur chacune de ces 8 communes.
Alors Solia 84, c'est une équipe. Vous êtes situé sur Comont-sur-Durance. Vous allez nous donner l'adresse exacte dans quelques instants. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter votre équipe?
On est 14 salariés au niveau de Solia Vaucluse. Il y a des profils différents. puisqu'il y a des conseillers habitat, il y a des architectes. Le but étant de pouvoir justement proposer des services aux propriétaires. Donc sur le territoire de la Cove, il y a 4 conseillers habitat qui interviennent, chacun ayant bien sûr son secteur d'intervention. Le but étant que le propriétaire n'a qu'un seul interlocuteur pour le montage de l'ensemble de ces dossiers.
Donc on peut vous retrouver aux 17 places du marché, donc c'est à Caumont-sur-Durance. Puis donc, si vous voulez plus de renseignements, il y a aussi un numéro de téléphone, je vais le donner, le 04 90 23 12 12. Voilà, et puis sinon, comme on vient de le dire, donc vous rendre directement sur les permanences. Merci en tout cas, monsieur Philippe Marda. Je rappelle que vous êtes directeur de Solia 84. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous écoutez l'émission Parlons Climat, réalisée en partenariat avec la COV, communauté d'agglomération Ventoux Comtat-Venaissin.
Alors Geneviève Boissin, il n'y a peut-être pas grand-chose à rajouter, mais j'ai quand même une petite question. Combien coûte une rénovation dans l'ancien en moyenne? Est-ce que vous avez, même si on ne donne pas trop de chiffres, ça peut permettre un petit peu aux auditeurs de se situer dans la rénovation, dans le coût?
Effectivement, pour une rénovation aujourd'hui complète, il faut compter à peu près 40 000 euros.
Oui.
Donc on voit que c'est quand même conséquent pour un ménage. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un certain nombre de dispositifs sur lesquels on va continuer à travailler pour pouvoir accompagner encore plus les ménages, puisqu'on vise, comme je le disais tout à l'heure, à avoir au moins 30% de parc rénové d'ici 10 ans, d'ici 2030. Donc il va falloir vraiment qu'on puisse accompagner au moins financièrement ou techniquement les ménages qui veulent aller sur de la rénovation.
Par rapport au plan, Monsieur Gricourt, le plan dure combien d'années? C'est pendant combien d'années?
6 ans.
Donc on peut, le dispositif que nous venons d'entendre, on peut partir du principe qu'il est valable aussi pour 6 ans, ou est-ce qu'il peut s'arrêter avant dans le plan ou pas, ou être revu?
En fait, c'est des dispositifs qui sont propres, qui ne sont pas liés au plan climat, qui ont une existence à part, mais qui ont tout leur intérêt dans le plan climat. Donc en fait, aujourd'hui, il n'est pas du tout question de les arrêter, au contraire, puisque celui de Carpentras est en train d'être retravaillé et va repartir assez rapidement.
D'accord, et c'est un vœu aussi des élus, justement, de le poursuivre.
Tout à fait, absolument, parce que ça va dans un intérêt commun, un intérêt économique certain. Derrière, je parlais du budget, mais il y a aussi des emplois derrière.
Oui, bien sûr. Alors, en tant que maire d'une petite commune, c'est Saint-Pierre-de-Vassonne, on peut la nommer.
Absolument.
Le centre ancien existe aussi, comme dans tous les villages.
Absolument.
Est-ce que vous avez un petit peu des demandes en ce sens, en tant que maire, dans vos permanences ou autres, de gens qui veulent des renseignements ou qui font rénover ou qui auraient envie de faire rénover leur habitat ancien?
Ce sont effectivement des interventions que l'on a de temps en temps.
Oui.
Et nous les renvoyons effectivement vers Solia.
Vers Solia.
Hein, puisque c'est notre interlocuteur technique privilégié, hein, et qui ont toute la compétence justement pour aider nos administrés à faire face à tout ce type de problèmes.
De problèmes. Après Solia, j'aimerais que l'on parle de Halt, un autre partenaire aussi, qui est partenaire depuis, je pense, quelques années avec la COV. Non pas dans le plan, mais il était déjà avant aussi, je pense que c'est le cas.
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu avant qu'on entende, je crois que c'est la chargée de communication qui nous parlera un petit peu de Halt, mais est-ce que vous pourriez quand même donner quelques petits renseignements sur le partenariat avec Halt?
Donc la LTE existe depuis 1999, mais on est partenaire depuis 2007. C'est avec eux qu'on a créé l'espace Info-Énergie qui existe sur le territoire depuis plus de 10 ans et qui permet d'accompagner les ménages qui veulent faire de la rénovation ou avoir une intervention dans leur logement, mais qui ne savent pas trop vers qui se tourner.
Donc là, on est sur du conseil au grand public.
Oui, tout à fait.
Mais tout à l'heure, par rapport à Solia, ils font aussi du conseil quelque part. Mais en même temps, ils font pour expliquer peut-être un petit peu la différence entre
les
deux.
Oui, en fait, Solia, c'est vraiment un accompagnement à des dispositifs financiers. Ils vont les aider à monter les dossiers, à savoir s'ils sont bénéficiaires ou pas. L'espace info, c'est vraiment un premier conseil d'accompagnement d'une personne qui veut changer sa chaudière au fioul, mais qui ne sait pas trop comment faire, vers quel prestataire il peut se tourner. Donc, l'agence, l'espace Info-Énergie le reçoit, fait un petit point sur les travaux à envisager et l'oriente sur des dispositifs existants financiers. Donc ça peut être vers Solia ou ça peut être vers des prestataires qui sont agréés RGE et qui ont du coup, avec cette labellisation environnementale, une sécurité en termes de rénovation énergétique.
Deux mots intéressants, sécurité agréée. On est tous soumis, les téléphones qui sonnent sans arrêt ou on est démarché. marché continuellement. Là, c'est le gage, c'est l'assurance, justement, en se rendant chez ALTE, qu'on les dirige vers des professionnels agréés.
Oui, tout à fait.
Donc, c'est peut-être bien, justement, l'objectif. De bien le souligner.
C'est vraiment une notion de sécurité. Effectivement, avec tous ces démarchages, on ne sait pas trop ce que valent les propositions. Ça permet surtout, voilà, de pouvoir s'asseoir et de discuter avec quelqu'un qui est professionnel dans son métier et qui est complètement neutre. Son objectif, ce n'est pas de faire travailler quelqu'un plutôt que l'autre, mais de faire travailler des gens qui ont une vraie sécurité en termes d'action.
Et bien, on va écouter Juliette Loquet, qui est chargée de communication. On écoute.
L'Agence locale de la transition énergétique, c'est une association qui a été créée en 1999. Et on est une association qui est connue au départ surtout pour renseigner le grand public qui souhaite faire des travaux de rénovation. Donc on les oriente à travers les différents dispositifs nationaux et locaux qui existent. Les aides financières, on les renseigne sur les professionnels qualifiés qui peuvent réaliser leurs travaux. Alors on intervient auprès du grand public, comme j'ai dit, qui nous connaît assez bien. On intervient aussi auprès des entreprises, de plus en plus d'ailleurs. On intervient auprès des collectivités en appui technique pour monter des nouveaux projets, etc. Et puis on intervient de plus en plus auprès des salariés, des collectivités et des entreprises et des individus pour les changements de comportement. Alors en fonction de la demande, on va orienter vers un des divers dispositifs qui existent. Donc pour les particuliers, ça va être Jean-Philippe par exemple qui fait le conseil énergie, qui lui va renseigner en fonction du projet, la personne, si c'est de la construction, si c'est de la rénovation, avec une expertise spécifique énergie. Donc pas forcément uniquement sur les qualités architecturales, etc., mais vraiment sur l'efficacité énergétique et donc la performance du bâtiment. On peut nous rencontrer sur des foires, sur des salons où l'association a régulièrement des stands parce qu'on travaille beaucoup sur les territoires. Après, on organise aussi des animations, des événements, des conférences sur les territoires partenaires. Et puis, on peut le particulier peut nous rencontrer après avoir appelé notre plateforme téléphonique de renseignement sur la rénovation.
RTBFM, RTBFM, 100% Provence.
100% Provence.
On a cassé la planète, il est où le savait. On a cassé la planète, ça tout le monde savait.
Dans la vie, il y a des cactus, et sur ce même cactus, depuis, il y a du plastique. Aïe, sur les plages de Koh Lanta, derrière les candidats, c'est pas si idyllique. Il y a des pailles McDo qui sirotent sur l'eau, coca plastique qui flotte sur le Pacifique. Un Capri Sun à la dérive qui finit sur la rive dans la bouche d'une tortue.
Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe.
On a cassé la planète, il est où le soleil? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le soleil?
Y'a comme un air de chicha sur les buildings pékinois. Le smog made in China. Les usines crachent leurs poumons. On est tous au premier balcon pour voir le ciel couleur béton. On mange des glaces en février. Y'a plus de glace sur les glaciers. Les sources polaires vont transpirer. Bulldozer dans les forêts. L'orang-outan est délogé pour la pâte à tartiner.
Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe.
On a cassé la planète, il est où le soleil? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le soleil? On a cassé la planète et ça tout le monde savait.
Il est trop tard. Nous sommes nous face à l'euro, le dollar. Un bout de charbon dans une marée noire. Une tumeur qui ne crée que des cauchemars. Et je me concentre sur ce que je veux donner. Une énergie commune qui peut rassembler. Je m'apprêtais à contacter le SAV. Mais le numéro est dévié sur ma ligne.
On a cassé la planète, il est où le SAV?
Il est où le SAV?
On a cassé la planète et ça tout le monde savait.
Vous écoutez l'émission Parlons Climat, réalisée en partenariat avec la COV, communauté d'agglomération Ventoux Comtat-Venessin.
Et oui, dur constat, mais on vient d'écouter Suzanne, il est où le SAV ? Alors Geneviève Boissin, quand on écoute les paroles de cette, ou même Ghislain Gricourt, ça fait peur quand même, malheureusement c'est la vérité.
Tout à fait, c'est pour ça qu'il est doublement, voire triplement important d'en avoir la conscience,
oui.
et d'œuvrer effectivement pour, d'abord pour nous-mêmes, mais aussi et surtout pour les générations futures et pour notre planète qui est si belle. Quand on veut bien s'en occuper.
On veut bien s'en occuper. J'aimerais aborder maintenant le thème de la mobilité. Alors, pourriez-vous nous faire un focus rapide sur les habitudes de déplacement des habitants de la COV et s'il y a des pistes envisagées dans le PCAET pour en réduire les impacts environnementaux ? Est-il également prévu dans le PCAET de développer la part des énergies renouvelables ? Alors, ça fait une longue question, mais je pense qu'il y a beaucoup de réponses à apporter. On vous écoute, Geneviève.
Alors oui, effectivement, sur la mobilité, on est avec la rénovation sur le deuxième enjeu le plus important sur le territoire, puisque on a plus de 80% de déplacements qui se font en véhicule léger. On a une part du transport en commun qui est, malgré un réseau de transport qui est plutôt bien structuré pour notre territoire, qui est à la fois rural et également très urbain, mais qui la part est encore faible sur le marché. Et on a également la mobilité douce qui peine à prendre des parts du marché avec 2 à 3% de parts dédiées aux mobilités douces. Donc effectivement, l'objectif du plan climat est de fixer une évolution de la mobilité vers des mobilités plus douces, puisque aujourd'hui, les flux les plus importants en termes de déplacement sont soit intra-Carpentras, c'est-à-dire des gens qui habitent à Carpentras et qui se déplacent au sein même de la ville, mais il y a également des flux importants soit entre les pôles urbains de Carpentras et de la Première Couronne, soit vers Avignon, soit des pôles comme Orange ou Lille-sur-Sorgue. Donc on a vraiment des déplacements relativement diffus et le plan climat vise à ce qu'à horizon de 2030, une 30% environ des actifs n'utilisent plus leur véhicule ou du moins l'utilisent différemment, par exemple avec du covoiturage.
J'allais vous le dire, alors comment fait-on justement pour pousser nos concitoyens aient moins utilisé leur voiture ?
Alors, on est vraiment sur plusieurs solutions. On n'arrivera pas sur un territoire comme le nôtre à se dire, demain, on met en place un métro, un tramway qui va résoudre toutes les problématiques. Ce n'est pas possible. Les solutions, elles sont vraiment mixtes. Aujourd'hui, on est en train de lancer au niveau du territoire un schéma pour développer les pistes cyclables. C'est un des volets essentiels sur notre territoire pour rendre le déplacement à vélo ou à pied beaucoup plus sécurisé avec un maillage suffisamment pertinent pour que les gens puissent délaisser leur voiture et prendre un vélo. Mais on a également une action sur le covoiturage, sur des actions domicile-travail qui effectivement pèsent très lourd en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et là, effectivement, on est en train d'essayer un dispositif avec les gros employeurs du territoire pour lancer le covoiturage dans le cadre du domicile-travail. Après, on va bénéficier également de l'évolution des véhicules, hein, de moins en moins polluants, de la limitation de vitesse, qui sont des dispositifs nationaux, mais qui vont permettre d'avoir des conséquences sur chaque territoire. Et puis ensuite, ça va être également des démarches propres à chaque entreprise ou collectivité, comme développer le télétravail, qui permet d'éviter deux fois par semaine, d'éviter de se rendre au travail et d'éviter des émissions de gaz à effet de serre.
Alors c'est vrai que c'est un très gros chantier. Ghislain Gricourt, vous qui êtes sur une commune rurale, c'est peut-être là aussi, on vient vous trouver, on vous dit voilà, on voudrait bien prendre les transports, mais est-ce qu'ils sont assez développés, ils sont pas assez développés, ils correspondent pas à mes horaires, se rendre à Carpentras, c'est pas toujours évident. Qu'est-ce que vous leur répondez justement à ces gens-là, au niveau de leurs habitudes ?
Je crois qu'effectivement, vous touchez du doigt la réalité de nos territoires ruraux. C'est que il y a une adaptabilité du transport en commun qui n'est pas toujours compatible avec les horaires de travail dans nos campagnes. Moi, je pense, et je reviens sur ce que disait Geneviève tout de suite, la solution, une des solutions, à mon avis la plus efficace, ça reste encore le covoiturage. Dans la mesure où les flux... moi, j'ai très peu de gens qui travaillent dans le village, oui. Bon, à part part les agriculteurs et les viticulteurs, mais la majorité de la population, enfin des actifs de Saint-Pierre, vont ou vers les communes avoisinantes, comme Benoît, comme Mazan, mais surtout vers Carpentras, voire Avignon. Donc là, effectivement, le covoiturage aura toute son utilité.
Alors, le covoiturage, une solution, les pistes cyclables, alors ça, c'est des choses à longue échéance, je dirais, la piste cyclable, c'est vrai que c'est une demande aussi. On est quand même un département où il y a énormément de... Alors, c'est surtout le cyclotourisme, mais est-ce que les pistes cyclables, voilà, elles demandent qu'à être développées, elles ne sont pas très nombreuses, un peu sur les grosses communes comme Carpentras, ça démarre un petit peu.
Oui, ça démarre un petit peu. On a également la chance d'avoir la voie verte entre Carpentras et Jonquière, hein, qui est quand même très, très utilisée et qui commence à l'être aujourd'hui sur des heures de bureau, ce qui n'était pas le cas au début. Donc, on se rend compte que c'est des usages qui se développent. Effectivement, on est sur c'est un peu la contradiction, c'est qu'on est sur un département où le vélo tourisme est très, très important, connu au niveau international. Et il y a une vraie demande à la fois des touristes, mais surtout des gens du coin qui ont... on a la chance aussi d'avoir des journées, même en plein hiver, qui sont relativement douces et qui nous permettent de prendre le vélo beaucoup plus facilement. Et cette politique vélo demande à être amplifiée. Et c'est vraiment un gros chantier qu'on attaque aujourd'hui avec les élus et qui va prendre du temps, évidemment, hein, puisqu'on n'installe pas des pistes cyclables forcément n'importe où. Et le plus important, et on l'entend autour de nous, c'est que utiliser le vélo, c'est bien, mais il y a vraiment une notion de sécurité qui est essentielle à prendre en compte, notamment quand on a des enfants ou quand l'usage du vélo n'est pas forcément très aisé. Effectivement, il y a des communes comme Carpentras qui ont commencé à se positionner sur des schémas vélo, mais d'autres communes commencent effectivement à travailler sur des nouveaux projets.
On touche là au partage de la route entre le vélo et l'automobiliste. Ghislain Gricourt.
Oui, pour compléter ce que vient de dire Geneviève, je voudrais que la bicyclette chère à Bourville redevienne la petite reine de nos territoires.
C'est un vœu, espérons qu'il se réalise, c'est une très bonne chose, oui, tout à fait. Alors, je voudrais revenir 2 secondes sur les transports collectifs. Les transports collectifs, il y a un bilan carbone qui est quand même, je dis, relativement positif par rapport au partenariat avec Transconta, c'est exact.
Tout à fait.
Et je pense que là aussi, c'est quelque chose de positif à ce niveau-là. Je pense que déjà, les véhicules qui équipent les bus de Transconta font fait de très gros efforts
à
ce niveau-là.
Oui, tout à fait. On a une délégation donc, de transport public qui existe depuis un certain nombre d'années et on a amélioré les contraintes vis-à-vis de notre délégataire, c'est-à-dire il y a quelques années, on n'avait pas forcément d'obligation sur le choix des bus. Aujourd'hui, on a vraiment des obligations d'avoir des bus Euro 6, c'est-à-dire avec un niveau d'émission de polluants le plus bas possible sur le marché et avec des choix de véhicules électriques sur des lignes qui peuvent être adaptées. Après, on a également eu une commande sur une adaptation du véhicule par rapport aux lignes, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de critiques des bus vides en plein milieu de la journée. C'est vrai qu'on a un réseau de bus qui fonctionne énormément avec les scolaires et qui marche très très fort à ces heures-là et qui a du mal à trouver sa clientèle sur des horaires en dehors des horaires de scolaires. Donc c'est vrai qu'on a demandé également aux délégataires d'avoir une réflexion et une action sur l'adaptation du véhicule en fonction des horaires de circulation.
Et concernant la flotte de véhicules justement de la COV, on peut le dire aussi. Est-ce qu'on va vers un verdissement de la flotte elle-même ?
Oui, tout à fait. C'est une vraie demande de l'ensemble de notre direction d'avoir un verdissement de la flotte. Donc aujourd'hui, on est en train de réfléchir sur son évolution, soit vers des véhicules électriques, soit éventuellement sur des bennes à ordures ménagères à gaz. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de diminuer l'empreinte carbone de la collectivité au travers de nos déplacements. Et en parallèle, on a également des réflexions. Tout à l'heure, on parlait du télétravail ou sur la vidéoconférence qui nous permettrait d'éviter des déplacements lorsque cela n'est pas nécessaire.
N'est pas nécessaire. Mais en tout cas, il y a un gros chantier, mais bon, les choses avancent petit à petit. J'aimerais qu'on intervienne aussi maintenant sur le développement des énergies renouvelables avec quelques exemples justement en la matière qui vont être réalisées. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de ces énergies renouvelables ?
Oui, alors je vais quand même vous donner quelques chiffres. Guylain en parlait tout à l'heure. On a une production d'énergie énergies renouvelables sur le territoire qui n'est pas très élevé. On a 6% de l'énergie consommée qui est produite aujourd'hui à partir d'énergies renouvelables, principalement le bois, un petit peu le solaire, mais pas beaucoup. Donc les élus se sont positionnés lors du séminaire sur une vraie amplification de la production d'énergie renouvelable, principalement le solaire photovoltaïque de par notre situation en Provence. Mais on a également le bois qui est quand même très présent dans les foyers et une étude qui est en cours sur la méthanisation et la valorisation des déchets. L'objectif, aujourd'hui, on est à 6%. L'objectif est de passer en 2050 à un territoire à énergie positive, c'est-à-dire qui produit plus d'énergie que ce que le territoire en consomme. C'est une vaste ambition, mais on peut tout à fait y réussir, notamment au travers du solaire, puisque là, pour vous donner un exemple, on a lancé une étude sur le potentiel photovoltaïque des bâtiments publics avec un certain nombre de communes, et l'objectif est de produire et d'installer des centrales photovoltaïques sur les bâtiments publics.
C'est justement là-dessus que je vais rebondir. Alors toujours pareil, je reviens vers vous en tant qu'élu. Les communes qui se sont positionnées, est-ce que vous vous êtes également positionné sur votre commune pour pouvoir accueillir des panneaux photovoltaïques?
Oui, tout à fait, parce que je considère qu'une collectivité, quelle qu'elle soit, a aussi un devoir d'exemplarité par rapport à ses administrés. Et si la commune ou la communauté de communes ne fait rien, pourquoi nos administrés feraient quelque chose? On peut se poser la question. Donc moi, en tant que petite commune, j'ai complètement adhéré au programme qui a été lancé par la communauté de communes pour pouvoir bénéficier de l'installation de panneaux solaires qui seront positionnés dans les mois qui viennent pour information sur la mairie et sur la maison d'assistante maternelle du village.
Village. Geneviève Boissin, beaucoup d'élus se sont positionnés pour accueillir des panneaux photovoltaïques.
Oui, on a lancé un groupement de commandes avec les communes de la COV, ce qu'on fait régulièrement depuis un certain nombre d'années. Et effectivement, on a eu beaucoup de communes qui ont été favorables et qui ont intégré le groupement de commandes avec nous. La vraie difficulté, c'est qu'on a beaucoup de territoires très ruraux, avec un patrimoine souvent classé, et c'est parfois difficile d'installer des panneaux photovoltaïques. Donc on a un vrai travail à mener aujourd'hui d'intégrer de ces panneaux pour pouvoir produire, mais en même temps en ayant une réflexion sur la valorisation du patrimoine et son intégration paysagère.
D'accord. Mais Geneviève Boissin, Ghislain Gricourt, si vous le permettez, on se refait une petite pause musicale et on continuera. On a encore pas mal de choses à développer dans le cadre de ce PCAET, Plan Climat Air Énergie. À tout de suite.
C'est vrai qu'il fait un temps superbe pour un dimanche de février. Il y a ceux qui bronzent déjà sur l'herbe et ceux qui s'inquiètent des degrés. Les éléments sont en colère et les décideurs font la loi. Quand un expert montre la terre, l'industriel regarde le doigt. Et quand il rentre à la maison, il dit franchement, il n'y a plus de saison. Pendant que des mecs en costard nous garantissent que tout va bien, on se demande s'il est trop tard et ce qu'on peut faire au quotidien. Tous ensemble sur le même bateau, les femmes et les enfants d'abord. Y'a qu'à regarder les infos, les drames, les ouragans dehors. Les incendies sont en option. Non mais franchement, y'a plus de saison. Y'a plus de saison. Y'a plus de saison. C'est ma grand-mère qui avait raison. Y'a plus de saison. Y'a plus de saison. Le ciel est noir à l'horizon. On se dit que l'homme est capable autant du meilleur que du pire. Et toutes ces images nous accablent quand un autre continent transpire. On a construit des grands musées, des cathédrales et des jocondes. On va quand même pas préserver la beauté naturelle du monde. Y'a pas urgence de toute façon. Les océans vous le diront. Y'a plus de saison. Y'a plus de saison. C'est ma grand-mère qui avait raison. Y'a plus de saison. Y'a plus de saison. Le ciel est noir à l'horizon. Regarde nos mômes jouer aux billes dans
les caniveaux de la planète. On s'inquiète du soleil qui brille comme une épée au-dessus de leur tête. Qu'est-ce qu'il en sera dans 100 ans? Est-ce que la terre pourra tourner? Quand leurs automnes seront nos printemps, quand leurs hivers seront nos étés. Et aux futures générations, est-ce qu'on va demander pardon? Y'a plus de saisons, y'a plus de saisons. C'est ma grand-mère qui avait raison. Y'a plus de saisons, y'a plus de saisons. Le ciel est noir à l'horizon. Y'a plus de saisons, y'a plus de saisons. C'est ma grand-mère qui avait raison. Y'a plus de saisons, y'a plus de saisons. Le ciel est noir à l'horizon.
Vous écoutez l'émission Parlons Climat, réalisée en partenariat avec la COV, communauté d'agglomération Ventoux Comtat-Venaissin.
Et nous continuons à parler climat dans le cadre de cette émission PCAET, Plan Climat Air Énergie. Et là, je m'adresse à nouveau à vous, Monsieur Gricourt, élu. On va parler un petit peu de votre commune et toujours parler de ce qui se réalise ou pas dans certaines communes, de vos collègues que vous côtoyez, je dirais, très régulièrement. Alors, il y a des initiatives qui ont vu le jour depuis plusieurs années, dont une, c'est l'éclairage public qui baisse à certaines heures ou pas. Est-ce que vous, justement, vous avez choisi également cela dans votre commune? Pourquoi? Et qu'est-ce que ça vous fait faire comme économie d'énergie?
Oui, tout à fait. Dès le début du mandat, je suis positionné pour que l'électricité, enfin que la lumière soit carrément coupée entre minuit et 6 heures du matin. Ça fait une économie de 5 à 6 000 euros pour le village, ce qui n'est pas négligeable. Et puis il y a eu des remarques concernant la sécurité ou l'insécurité en pleine nuit noire. Or en fait c'est l'inverse qui se produit. C'est l'inverse parce que dans un village qui est noir, quand on veut cambrioler, il faut y voir quelque chose.
Oui.
Et donc, une lumière de nuit, ça se voit de très loin. Ensuite, il y a un autre paramètre qui, à mon sens, était aussi intéressant. C'était d'éviter les perturbations nocturnes pour les oiseaux.
Donc, il y a eu ce choix, économie d'énergie. Est-ce qu'au niveau des lampes aussi, il y a eu un choix de changement au niveau où on passe beaucoup sur les LED maintenant? Est-ce que c'est le cas également?
Alors, effectivement, ça, c'était le premier choix.
Oui.
Et le deuxième choix, qui n'est pas du tout péjoratif, hein, on n'est pas au solde là, hein, c'est de remplacer une partie des lampadaires du village par des LED. Alors, c'est un travail qui est confié au syndicat d'électrification vauclusien et qui doit être réalisé dans le courant du mois de février.
D'accord.
Donc c'est tout le centre historique du village qui, dans un premier temps, sera éclairé grâce à des LED. Alors là, avec un système quand même très, très confortable, dans la mesure où la luminosité restera presque en permanence, avec une baisse d'intensité lumineuse la nuit, et dès que quelqu'un passe, cette intensité lumineuse se revigore un peu.
Là, on constate, Geneviève Voisin, que certains élus n'ont pas attendu, et dont la COV n'ont pas attendu justement le PCAET pour mettre en place des initiatives, mais est-ce que ces initiatives font partie également de du plan du PCAET?
Oui, évidemment, on est en tant que coordinateur de la transition énergétique, le plan climat a quand même une de ses missions est de mettre en dynamique le territoire au regard du changement climatique et d'accompagner les différents acteurs du territoire pour mener des actions soit de diminution des consommations énergétiques, soit de diminution des gaz à effet de serre ou de production des énergies renouvelables. Donc on est vraiment sur un accompagnement et on a prévu dans le plan d'avoir des dispositifs qui vont accompagner les différentes cibles. Monsieur Gricourt parlait effectivement des collectivités territoriales, mais on travaille également sur le monde économique, sur le grand public, voilà, sur tous les gens qui peuvent s'emparer à chacun puisse faire un petit pas pour le climat.
Et ce qui est bien aussi également, c'est que c'est un double effet, un effet immédiat sur la baisse de la facture, donc pour le consommateur, le citoyen, le concitoyen, c'est quelque chose d'intéressant. Et en plus, c'est bon pour l'environnement. Donc c'est plus facile à expliquer également, je suppose.
Tout à fait, surtout que dès que l'on parle gros sous, les gens sont tout de suite sensibles.
Et oui, ils sont beaucoup plus sensibles.
Et dans un budget comme un budget communal, eh bien écoutez, un euro, c'est un euro. Hein. Et si on peut le récupérer, on le récupère.
En tout cas, on va rester, merci pour ces petites précisions, on va rester sur le, toujours les économies, le gaspillage. Et là, peut-être, on va passer un petit peu sur le gaspillage alimentaire. Alors, là aussi, Geneviève Boissin, le gaspillage alimentaire fait partie aussi du plan climat, air, énergie territoriale.
Oui, tout à fait. C'est une action qu'on mène depuis 2015 déjà, hein, qui date même, je dirais, d'avant ce plan climat, où on a mis en place un accompagnement pour les cantines des communes pour limiter le gaspillage alimentaire. Donc, quel impact sur le climat ? Ben, on est vraiment sur moins d'approvisionnement, une consommation plus efficace et du coup, moins de déchets à gérer. Donc, ça... Et ça a évidemment des conséquences sur les consommations énergétiques. Et là, ben, on parle d'accompagnement des communes, hein, des modes de gestion des cantines, mais également d'accompagnement des enfants pendant le temps de repas et de gestion du déchet ensuite. Et cet accompagnement, sur une année, nous aide quand même à gagner beaucoup de grammage par élève. Et pour vous donner un exemple, sur la commune de Saint-Pierre-de-Vassol, quand on a fait les premiers audits des cantines, on se situait déjà sur des chiffres très intéressants puisqu'on était déjà 20 grammes en dessous de la moyenne nationale, c'est-à-dire qu'au lieu de 70 grammes à peu près sur un élève classique national en primaire, on était déjà à Saint-Pierre-de-Vassol à 55 grammes, ce qui est quand même déjà plutôt bien.
Plutôt bien. Alors Ghislaine Gricot, comment fait-on justement pour arriver à ce niveau-là dans une école primaire comme la vôtre, pour arriver à faire baisser quelques petites pistes?
Alors, la particularité de l'école de Saint-Pierre, c'est une école intercommunale qui regroupe trois communes, Saint-Pierre bien sûr, Crayon-le-Brave et Modène. Cette école et ce restaurant scolaire est géré en fait par l'intercommunalité, par la COV. Et les résultats que l'on observe effectivement en matière de gaspillage alimentaire, Geneviève en a parlé, il y a les circuits courts, il y a le fait que les enfants ont des produits qui sont très frais et il y a aussi la qualité de la restauration. En plus, la personne qui s'occupe effectivement de préparer le repas des enfants, une fois par semaine, fait un repas sans viande. Et ça passe très bien.
Et auprès des parents, c'est passé ? Est-ce que vous l'avez expliqué ?
Oui, ça passe. Les enfants ne sont pas morts.
Hein. Oui, effectivement. Donc, pour le gaspillage alimentaire, on a un bon exemple justement d'une commune comme la vôtre qui a pu réduire justement ce gaspillage. Et c'est bon également pour la planète. Toujours sur le gaspillage, les économies au niveau d'une communauté de communes Ventoux-Quentin-Venaissin, comment fait-on au niveau des moyens ? Est-ce qu'il y a une possibilité justement de mutualiser ? Et comment ça se fait ? Est-ce que justement vous allez vers la mutualisation des moyens pour faire des économies, ne serait-ce que dans les achats et autres ? Est-ce que ça existe également ?
Oui, depuis 2010, on a un service de la commande publique qui est très actif sur ces questions de développement durable et de mutualisation des moyens. Et tout à l'heure, on parlait de groupement de commandes sur une étude. On le fait également sur des achats de véhicules, de photocopieurs, de fournitures de bureaux. Et ce qui permet de faire des économies d'échelle et de faire des économies financières, mais aussi de mettre dans des marchés des critères environnementaux qu'on n'aurait peut-être pas mis parce que ça coûte souvent très cher. Mais là, le fait d'être mutualisé et de faire des économies d'échelle nous permet également de faire des économies financières et ça profite à tout le monde.
Et ça profite à tout le monde également. Nos étés risquent de devenir de plus en plus caniculaires. On l'a constaté déjà sur l'été. Là, on a eu un été qui était quand même relativement chaud et malheureusement, je pense que ça va le continuer. Est-ce que notre cadre de vie doit-il s'adapter et de quelle manière ? Est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui est prévu en la matière dans le plan climat, air, énergie territoriale ?
Alors, vous parlez des îlots de chaleur urbains, des phénomènes de canicule. C'est des mots dont on n'entendait pas parler il y a quelques années. Cette année, en juin, on avait la chance d'avoir dans le service une stagiaire qui nous a aidé à y voir plus clair sur toutes ces problématiques. Et on avait installé, on n'avait pas prévu la canicule, ça s'est vraiment passé au même moment, c'est qu'on avait installé des sondes de mesure de température sur Carpentras et sur Malocène, qui était des deux communes pilotes. Et on s'est rendu compte d'abord qu'on avait dans certains lieux dépassé 43 degrés, ce qui est assez ahurissant en pleine journée. Mais on s'est également rendu compte que suivant les lieux où étaient posées les sondes, on avait des températures plus ou moins élevées. La question de la végétalisation des centres urbains, la question d'imperméabilisation des sols, la présence de l'eau, l'activité la densification de l'habitat, l'ombrage, la présence de l'eau permettait de faire évoluer des températures d'une manière assez formidable dans les centres urbains. Et parfois de dizaines, voire 15 degrés de différence entre deux rues qui pouvaient être ensoleillées différemment ou avec une vie urbaine complètement différente. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler pour accompagner nos élus, pour accompagner les acteurs qui sont aussi en charge d'aménagement, pour réintroduire le végétal, pour réintroduire l'eau, pour réfléchir aux questions d'ombrage, au choix des matériaux en centre urbain, mais également à la question des sols. Aujourd'hui, on a des sols imperméables. Le fait d'avoir des sols qui récupèrent l'eau puissent faire de l'évapotranspiration dans la journée. Voilà, donc on est vraiment... on a eu vraiment ces derniers mois une prise de conscience par rapport à ces problématiques d'aménagement et on continue de travailler dans des groupes de travail avec les élus, les acteurs locaux, les chargés d'urbanisme sur des aménagements différents pour demain.
Donc pour demain, la ville, un changement donc au niveau de nos villes et nos villages.
Oui, on est vraiment en transition là aussi.
Là aussi, donc pareil, un gros chantier, beaucoup de choses. Et au niveau du particulier lui-même, est-ce que, parce que là on parle beaucoup des élus, du choix qu'ils devront faire par la suite pour aménager la ville, mais est-ce qu'au niveau du particulier justement, qu'il soit en zone rurale ou urbaine, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en prévision pour eux ?
Donc, de la même manière, on est en train de monter des dispositifs d'accompagnement et d'animation auprès des citoyens pour lancer des défis. On parle souvent de planter un arbre. La région s'est engagée à planter 1 million d'arbres en région sud. Nous, il faut qu'on fasse notre part du chemin. Et on est en train de monter un dispositif pour lancer un défi auprès des citoyens, mais également auprès des acteurs économiques ou des agriculteurs pour qu'ils aient également une action sur cette plantation d'arbres. Arbres, sachant que suivant les arbres, on a des arbres qui amènent plus ou moins d'ombrage, plus ou moins d'humidité et on est en train de définir une liste de végétaux le plus adapté, qui résiste le mieux à la sécheresse, mais qui en même temps puisse être un élément vraiment de confort en centre urbain.
En centre urbain. Alors on aborde depuis le début de cette émission le contenu stratégique et opérationnel du PCAET, qui est un projet, donc je le rappelle, territorial à l'échelle de la COV. Ben, nous aimerions savoir peut-être, pour conclure, en conclusion, savoir de quelle manière est-il prévu d'impliquer et d'inciter les citoyens à s'en emparer ? Quels en sont les défis et comment éduquer les plus jeunes à l'environnement, qui est un gros thème, parce que c'est vrai que si les citoyens n'adhèrent pas, c'est un projet qui aura un peu plus de mal à voir le jour, enfin verra le jour, mais qui sera plus difficile à mettre en place. Alors qu'est-ce qui est prévu à ce niveau-là ?
Alors effectivement, les citoyens sont une des cibles dont je parlais tout à l'heure. On parlait des entreprises, des agriculteurs, des collectivités. Le citoyen est une des cibles et un des acteurs essentiels à mobiliser. D'abord parce qu'il y a vraiment un fonctionnement au sein des familles qu'il va falloir accompagner. Il va falloir également que les familles puissent faire des transitions. Et le dispositif de défi citoyen qu'on prévoit de lancer sur la plantation d'arbres, mais on peut évidemment en lancer d'autres sur les familles à énergie positive ou sur le zéro déchet. Voilà. Donc tout ça, c'est des dispositifs qui sont en train de se mettre en place et qui vont prendre de l'ampleur dans les mois qui viennent. L'objectif est d'amener le plus en plus de personnes sur des actions innovantes. Mais pour ça, il faut aussi s'autoriser à faire de l'innovation, mais également avoir les moyens de les accompagner et de les rassurer dans des actions. On est vraiment sur une action qui, plus elle sera collective et plus elle aura d'envergure. Voilà, on est des petits colibris, chacun chez nous, mais quand on est des centaines et des milliers à agir, ça peut avoir des conséquences intéressantes sur le territoire.
Et les élus, M. Gricco, ont validé ce plan ? Peut-être en conclusion, il a été validé ?
Oui, ce plan a été validé ce lundi dernier, le lundi 10, en conseil de communauté. Et j'observe avec grande satisfaction qu'il a été adopté par une très, très, très large majorité des élus.
Alors, c'est une note très positive pour la fin de cette émission.
On va écouter petite scénette.
Une petite scénette, donc, entre trois jeunes sur le réchauffement climatique. Alors, c'est une petite caricature. Mais bon, voilà, pour terminer cette émission, et on revient juste après pour vous dire au revoir.
C'est quoi cette tenue ?
Ben tu t'es vu, tu te crois Miami.
Et toi ? en Sibérie. Hier, j'ai vu une émission sur le réchauffement climatique. Le mets en condition, il va faire chaud, très chaud. Ah, moi aussi, je l'ai vu sur la 5. Oui, c'est ça, excellent. Ouais, trop bien. Quoique, un peu flippant quand même. C'est vrai, ça. Ouais, mais t'as rien compris. On va se peler. Allô, quoi. D'un réchauffement climatique, on entend chaud. Les glaces, elles vont fondre. Comme les glaçons dans ton verre. Et comment il est ton coca? Froid, très froid. Tu l'as vu le film le jour d'après? Ils finissent tous congelés. Hé, arrêtez de raconter des salades. Je vais vous expliquer. Quand on parle de réchauffement climatique, il faut tout d'abord comprendre effet de serre. Quoi ça, un serre? Non, une serre. Vous voyez les espèces de longs tunnels dans les champs en plastique? Ah! Là où poussent les fraises! Pêcheur! Les fraises, les tomates, les salades. Eh bien, en dessous, il fait plus chaud.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite scénette donc réalisée par trois jeunes sur le réchauffement climatique. C'est issu des écoles donc de notre secteur, du secteur de la communauté d'agglomération Ventoux, Quentin, Venessin. Voilà, peut-être, je ne sais pas, Ghislain, le petit mot de la fin en 10 secondes, rapidement. Qu'est-ce que vous pourriez, rajouter?
Eh bien, ce que l'on peut dire, c'est que le PSAET, la transition écologique, ce sera l'affaire de tous. Hein, je crois que le train est en marche maintenant. Il appartient à tous d'apporter... J'ai bien aimé la métaphore utilisée par Geneviève du colibri. Je crois que c'est ça. On a tous notre petite graine à apporter à cette grande construction qu'est une terre plus saine et plus belle.
Ben merci. C'est sur ces mots très positifs que l'on terminera cette émission. Merci Ghislain Gricourt, vice-président de la COV, délégué au développement durable, et à Geneviève Boissin, responsable du service environnement et énergie en charge du PCAET. Merci d'avoir passé cette heure en notre compagnie pour nous expliquer justement le plan climat, air, énergie territoriale. À très bientôt et merci à vous. Au revoir.
Vous venez d'écouter l'émission Parlons Climat, réalisée en partenariat avec la COV, communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venessin.